Restons courtois. Marc Hainaut.
Et de retour dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles, à l'antenne de Radio Courtoisie. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Thomas Morel de Valeurs Actuelles et Étienne Darjac, éditorialiste. Dans quelques instants, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et maire de Hyères, se joindra à nous. En attendant, chers auditeurs, après ce petit tour des élections municipales en France, il est vrai qu'on a un peu délaissé Paris. Paris qui est resté dans le giron socialiste, resté grâce à l'élection d'Emmanuel Grégoire, l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, qui a quand même bien réussi à faire oublier qu'il a été le premier adjoint d'Anne Hidalgo, justement, cette dernière-là, il faut dire, beaucoup aidé. Première question, Thomas Morel, l'élection d'Emmanuel Grégoire face à Rachida Dati et Sofia Chikirou, hein, une surprise selon vous?
Alors, ce qui est effectivement... Le problème, c'est que c'était une élection qui était très très compliquée. Je pense que beaucoup à droite se disaient que, après avoir eu deux mandats de Anne Hidalgo, deux mandats de Bertrand Delanoë, on pouvait peut-être enfin espérer l'alternance vers la droite se ferait naturellement. Or, c'est absolument pas du tout ce qui s'est passé. Notamment parce qu'ils ont choisi une candidate qui était extrêmement clivante. Notamment parce qu'entre-temps, la sociologie de Paris a beaucoup changé et penche de plus en plus vers la gauche. Quand on regarde, et par ailleurs, Rachida Dati a beaucoup souffert de la candidature de Pierre-Yves Bournazel au premier tour et de son désistement un peu précipité, où il a fusionné, puis après il a dit « ça finalement, la fusion se fera sans moi ». Ouais. Quand on regarde en fait les scores entre les deux tours, on voit qu'il manque énormément de voix pour Rachida Dati de toutes celles qui étaient censées rassembler.
Il est vrai, Étienne Darjac, j'ai entendu l'interview de la sénatrice de Paris Agnès Severin qui disait qu'avec cette défaite, Paris était fichu pour 20 ou 30 ans. Comme si finalement, électoralement, c'était foutu pour la droite, quoi.
Bah, c'est sûr qu'en tout cas, Rachida Dati avait un boulevard devant elle. Faut quand même rappeler que, d'une part, elle est extrêmement identifiée par les Parisiens depuis très longtemps. Elle a bénéficié du retrait des deux listes, on va dire entre guillemets, de droite qu'elle avait face à elle. Je dis entre guillemets parce que Pierre-Yves Bournazel semble pas être l'homme de droite de la décennie. donc elle a bénéficié de ce double retrait, sans condition aucune ou presque. Tandis qu'en face, Sofia Chikirou se maintenait. Donc ça, c'est une première chose. En termes de stratégie électorale pure, elle avait un boulevard. Elle avait aussi toute la place qu'elle voulait pour taper sur 25 ans de socialisme qui ont considérablement endetté, sali, aggravé la vie des Parisiens, qui ont fait fuir les familles, qui ont fait fuir les classes moyennes, qui ont, il suffit de se balader à Paris aujourd'hui pour voir que il y a pas grand chose qui va dans cette ville. Elle avait, alors c'est arrivé un peu tardivement dans la campagne, elle avait cette histoire de scandale sexuel dans le périscolaire parisien qui est en soi une bombe nucléaire. Que ça n'a pas été exploité, et elle a réussi à perdre.
Il y a un problème de sèchement.
Ouais. Moi, je me souviens, c'est dommage, ils ne sont pas là, donc je ne peux pas me moquer d'eux. On en avait débattu avec nos amis chroniqueurs Valentin Gore et Victor Hérault, qui, il y a quelques mois, qui étaient complètement fous amoureux de Rachida Dati, qui était censée être la winneuse, être trop drôle, là, super. Elle est nulle. Elle est juste nulle, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle a perdu l'élection imperdable. Et maintenant, c'est vrai que. Avec l'évolution de la sociologie parisienne, on voit assez mal, à moins qu'un candidat ultra imposant s'impose naturellement en 2033, on voit assez mal comment la ville pourrait repasser à droite à l'avenir.
On sent l'électeur parisien désappointé, Étienne Darjac. Et bonsoir Nicolas Dupont-Aignan.
Bonsoir à vous.
Présidente Debout la France, maire de Hyères dans l'Essonne, réélu au premier tour à près de 80% des voix.
79-95. Il m'a manqué quelques voix pour
atteindre les 80%, ce qui fait de vous, on peut le dire, un des maires les mieux élus de France.
Des villes de 30 000.
Dans les villes de 30 000 habitants. Quel regard, on va parler des élections municipales bien évidemment, mais déjà sur l'aspect parisien, vous avez écouté ce qui vient d'être dit. Quel regard vous portez sur cet échec de la droite parisienne?
Je suis désespéré pour Paris parce que, comme vous l'avez dit très justement, le bilan est accablant. Et ils ont gagné. Donc, moi, je suis très sévère sur... Je pense que ces élections municipales ont quand même sanctionné la vieille politique. Qu'est-ce que j'appelle la vieille politique? C'est-à-dire ce côté magouilleur, aucune conviction. Et je suis désolé de le dire, Rachida Dati, elle a mangé à toutes les gamelles. Et je pense qu'elle a commis une très grave erreur en allant au ministère de la Culture. Parce que Rachida Dati, elle avait une bonne image d'une femme carrée, qu'avait été un peu la gamelle Sarkozy, mais qui malgré tout était sur une ligne, souvenez-vous, avant tout le pas chez Macron, bien de droite, mais ouverte. Mais, et je pense qu'elle a payé cette espèce d'appât de ce qui brille et qu'elle n'aurait jamais dû aller au ministère de la Culture. Que ça a brouillé complètement son image et que ça lui a fait beaucoup de tort. Premier point. Deuxième point, je pense qu'elle a fait une mauvaise campagne. J'ai été très surpris, puisque j'ai regardé les professions de foi. Ma fille est électrice à Paris et donc j'ai vu ses professions de foi. Elle me les a montrées. Et il fallait voir la violence de la profession de foi de la circulaire électorale de Grégoire. Oui. La violence. Mais c'était à la limite de la diffamation. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment la commission de propagande a pu accepter ça. C'est-à-dire, vous n'allez pas quand même élire quelqu'un qui va aller en prison, etc. C'était très, très violent.
Avec une espèce de vieux front républicain.
Ah, non, c'est pas ça.
Là, c'était vraiment juste sur la personne de Rachida Dati.
Le danger, tatati. Mais non, il y avait toute la deuxième colonne. C'était Paris ne peut pas avoir un maire qui ira en prison pour corruption. Et en face, je regarde la circulaire de Rachida Dati et c'était nul, quoi. Et il n'y avait pas d'attaque sur ce qui s'était passé. Il n'y avait rien sur le bilan. Il n'y avait pas de proposition très concrète. C'était traité. En fait, je crois qu'ils ont été trop dans la com. Et regardez Estrosi, pareil. Il est battu à plate couture. Aulas, qui était donné grand gagnant, il est battu à plate couture. Pas plate couture, de justesse, pardon. Et puis, il y en avait un quatrième qui m'a... Et Bayrou à peau. Donc, moi, je pense que, quand même, c'est... Alors, c'est dramatique pour Paris, parce que ils vont continuer à transformer Paris pour leur électorat.
Pour vous, c'est le même système qui perdure, de toute façon.
Ça va être terrible, parce qu'ils vont aller plus loin. Et je pense que, paradoxalement... Dieu sait si Hidalgo était insupportable. Je pense que Grégoire est beaucoup plus malin et beaucoup plus sectaire. Et son discours de victoire était d'un sectarisme et d'une violence, là aussi, impressionnant. Hein. Donc, on a du souci à se faire, voilà.
Si on prend ces élections municipales dans leur intégralité et les enseignements dont on peut en tirer, il y a évidemment cette question de... Vous avez parlé d'une forme de dégagisme, évidemment, pendant ces élections. Il y a aussi une autre problématique qui est celle de l'abstention. On a un Français sur deux qui n'est pas allé voter aux élections municipales.
C'est impressionnant. J'ai regardé un tableau là, qu'on m'a montré hier, que vous reprenez toutes les élections municipales. On était à 80% presque en 83. 62% en 2014. Et effondrement Covid, mais pas de remontée, alors qu'il n'y a pas de Covid, pas de remontée. Donc ça veut dire que, pour ce qui est le plus proche des gens, qui les concerne, 48% de participation. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Pour ce qui vous concerne. Donc ça montre un désaveu de la politique qui est extrêmement grave. Deuxièmement, j'étais très surpris. Moi, j'ai pu regarder le second tour à la télévision. Donc j'ai regardé, puisque j'étais élu déjà, et... J'ai trouvé un peu puéril, quand même, honnêtement, le comportement des leaders politiques. C'est-à-dire, c'était tous « j'ai gagné ». C'était honnêtement pas là.
Petit peu un grand classique aussi dans ce genre de soirée.
Mais ils se rendent plus compte que c'est fatigant, surtout pour une municipale. En fait, ce que j'ai retenu aussi, c'est que c'est une France de l'archipel. C'est une France, en fait, les villes musulmanes sont à LFI, les villes moins petites rurales sont au RN... bascule vers le RN, c'est pas son bascule. Les villes moyennes sont encore LR, et puis les métropoles sont socialistes écolo, quoi, à la louche. Et en fait, vous voyez que chacun conforte ses citadelles, donc tout le monde peut dire j'ai gagné, c'est facile. Mais la réalité, c'est qu'il y a une France qui se fracture avec chacun ses positions. Et ça veut dire que le défi de demain, ça sera de se dire, est-ce qu'il y a encore un peuple français ?
Justement, à propos de cela, vous l'avez évoqué, ces villes musulmanes, comme vous dites, on a vu des scènes à Saint-Denis, à Creil, on a vu à Mantes-la-Jolie, on a vu des maires sortants se faire humilier, se faire virer de manière, on va dire, insultante. Qu'est-ce que ça révèle pour vous, ce qui s'est passé, sans aucune condamnation, évidemment, de la part de la direction de la France Insoumise, par exemple, quoi ?
Et ça révèle... Ça révèle une myopie de nos responsables politiques qui ont gouverné depuis 30 ans, qui ont cru et qui croient toujours qu'on peut faire entrer sur notre sol 500 000 légaux, qu'on peut avoir 700 000 demandeurs d'asile sur le sol français, qu'on peut continuer à avoir de l'immigration et qu'il n'y aura pas de conséquences sur la société. Ça, c'est un truc qui m'a toujours absolument frappé depuis 20 ans que, ou un peu plus que je suis élu. C'est-à-dire que on a des dirigeants politiques qui voient arriver chaque année sur le sol des centaines de milliers de personnes qui sont différentes de nous. Et il ne s'agit pas de juger en bien en mal. Ils sont différents. Et on croit qu'ils vont arriver et être des bons petits Français avec l'état d'esprit des Français d'origine,
si
je puis dire.
On est renoncé à l'assimilation qui plus est. Qui...
Donc, eh bien, on est arrivé d'abord changement de mœurs et puis après changement des leaders politiques. Il ne faut pas s'étonner que si vous avez une majorité à Saint-Denis musulmane d'origine étrangère qui a un autre système de valeurs, ils élisent un des leurs. Mais c'est extravagant de voir des responsables politiques soi-disant savants qui sont tous surpris. Bah, ils importent, ils prennent le pouvoir. Et cette prise de pouvoir démocratique, c'est dans Soumission de Houellebecq. Relisez Soumission de Houellebecq. C'est impressionnant. Il faut le relire pour le croire. Mais voilà ce qu'on voit, donc il ne faut pas s'étonner. Mais est-ce qu'un jour on va traiter la cause ? Non,
alors,
ils ne veulent pas traiter la cause. Voilà la réalité.
Après, pour relativiser un petit peu la percée insoumise...
Alors après, on peut avoir des sanctions, machin, voilà. mais vous ne sanctionnez pas un peuple ?
Il y a juste, enfin, on parle de 500 villes de 500 listes insoumises, seulement 7 villes remportées. Ah. Est-ce qu'il y a un effet grossissant de la loupe pour vous ?
Il y a un effet de loupe quand même.
Ouais.
Mais attention, attention, si on continue avec une immigration massive, 500 000 légaux par an, si vous ajoutez 200-300 000 illégaux, c'est près d'un million de personnes, enfin, c'est délirant.
C'est
personne n'en parle encore.
C'était un peu plus la ville de Nice, oui.
Tous les ans. Mais on les met où ? Bah, ils s'installent. Ils vont pas disparaître. Quelle naïveté, mais quelle naïveté. Donc c'est vraiment le grand remplacement pour le coup là. Je suis désolé de le dire, c'est un mot tabou, mais c'est un remplacement. À défaut de grand, c'est un remplacement progressif qui irrigue toute la société, qui donc aboutit à des changements politiques. Ces changements politiques, voilà. Donc il faut traiter la cause. Fermer les frontières, sortir de l'Union européenne, enfin traiter la cause. Parce qu'on ne traitera pas le problème migratoire en restant dans l'Union européenne. Et ce sera le thème de ma campagne présidentielle, ça sera le thème majeur. Je ne comprends pas pourquoi, au moment où la vérité est sous nos yeux, même le Rassemblement national n'ose pas dire la vérité. La vérité, c'est si on ne reprend pas en main notre souveraineté sur les frontières, sur les lois, pour traiter le problème migratoire, on sera submergé. Et des villes comme ça, vous en aurez aux prochaines municipales, 50 de plus, et puis celles d'après, 100 de plus, et on sera en guerre civile à la fin.
Je vais laisser la parole à mes chroniqueurs qui ont des questions à vous poser, non, je vous en prie, mais du coup, j'aurais deux questions, voire remarques vis-à-vis de cela. Premier point, on voit quand même que la majorité au Parlement européen est quand même en train de bouger, on voit que la droite traditionnelle du PPE arrive à s'allier parfois avec les eurodéputés de l'AFD. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors, on a quand même vu ça avec le Brexit. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne n'a absolument pas amélioré la question migratoire.
Vous avez raison là-dessus, parce qu'ils n'ont peut-être pas pris les mesures. Mais autre point, bien sûr qu'il y a des mesures qui sont prises au Parlement européen, et honnêtement, Jordan Bardella, Sarah Knafo, Marion Maréchal se battent bien. Et il y a des choses positives, moi je ne sais pas. Mais c'est, si vous voulez, quand on regarde concrètement, on est tellement à la marge des mouvements fondamentaux, à la marge. Et j'en prends pour témoin, vous verrez, je publie un livre le 22 avril, et j'explique pourquoi je veux maintenant sortir, parce qu'avant, je n'étais pas sur cette ligne, et j'ai évolué. Parce que si vous réalisez que la commission de Bruxelles, les commissaires ont un objectif, il est écrit, 4 millions, il faut faire entrer 4 millions par an, et il dit « c'est pas assez ». Et donc, en fait, d'un côté, il y a des mesures prises pour colmater des brèches, mais la brèche, elle est géante. Et c'est la France qui le paye le plus cher. Regardez les régularisations que vient de faire l'Espagne. Personne n'en parle. Il n'y a pas eu un article, il n'y a pas eu une émission sur les régularisations espagnoles. C'est 1 million de personnes.
Valeurs actuelles à couvrir.
Voilà, mais non, mais vous, c'est normal. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, Radio Courtoisie, Valeurs actuelles, Téléliberté, mais même Le Figaro, quasiment rien. 1 million de personnes sont rentrées en Espagne. Ils vont aller où, à votre avis ? Est-ce que vous croyez qu'ils vont rester en Espagne avec les allocations sociales espagnoles ? Ou est-ce qu'ils ne vont pas venir à la CAF française ? Voilà la réalité.
Et pour vous, c'est une conséquence de l'Union européenne ?
Bah, c'est clair. Soit on rétablit nos frontières nationales, on gère nous-mêmes nos droits d'asile, on rétablit notre souveraineté migratoire, soit nous serons balayés. Pour une raison très simple, c'est que l'Italie et l'Espagne voient juste passer l'immigration. Ils les gardent pas, eux. Ils les font passer. L'Allemagne les prend pour le boulot parce qu'ils ont un déficit de natalité colossal. C'est leur choix, ben, qu'ils fassent leur choix. Mais nous, on n'a pas à être le réceptacle de tous ceux qui vont ne pas travailler et rester chez nous. Alors oui, il y a des mesures nationales, on peut supprimer des aides, etc. Mais il faut rétablir les frontières nationales. On n'y coupera pas, vous verrez. On n'y coupera pas. Et ça, je veux mettre le débat, je veux mettre l'éléphant au milieu de la pièce pour que au moins, il y a des millions de Français qui puissent dire « oui, il a raison ». Et ça fera changer le RN, parce que je pense qu'au fond, le Rassemblement National pense comme moi. Simplement, il se dit « ah ben oui, mais on ne sera pas élu si on dit ça ». Bon, c'est leur choix. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment, dise aux Français « est-ce qu'on se prend ?» On prend les mesures qui s'imposent pour sauver la France. On ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre.
Thomas Morel.
Oui, tout ça rappelle quand même beaucoup la fausse campagne présidentielle de 2022, c'est-à-dire qu'on avait effectivement... d'un côté, un RN qui revendiquait une forme de nationalisme français. De l'autre côté, Emmanuel Macron qui a fait toute sa campagne pour parler uniquement de l'Ukraine et du fait qu'il fallait être solidaire entre Européens. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur que, défendant aujourd'hui la position que vous défendez et la solidarité européenne, ou en tout cas la façon dont les gens sont touchés par ce qui se passe, fait qu'il y a quand même une très large majorité de gens qui pensent qu'il faut serrer les coudes entre Européens. Vous n'avez pas peur, en fait, de rejouer 2022 et qu'on en revienne exactement la même chose ?
Non, parce que je pense que la situation a changé. Je pense, d'ailleurs, les sondages le montrent aussi. Il y a plus de 30% des Français qui veulent le Frexit. Et je ne vais pas proposer un Frexit sec comme ça. Je vais justement être là. Pour la première fois, il y aura une offre politique en France, à une présidentielle, pour qu'on acte que seule la dissolution de l'Union européenne est le moyen de s'en sortir, et une reconstruction d'une Europe des nations libre, avec ses frontières, son budget, et que c'est le seul moyen d'y arriver. Et je veux qu'il y ait ce débat en France, parce que ce débat, il a existé en Angleterre, il n'existe pas en France. Et en fait, c'est comme sur le plan général, la gauche, et là les européistes, ont tétanisé la droite et les patriotes, vous voyez ? C'est-à-dire que j'ai réalisé tout à coup que beaucoup de patriotes s'interdisaient d'envisager même la dissolution de l'Union européenne parce qu'ils se disent « ça ne va pas plaire aux médias, ça va nous faire perdre des voix ». Libre au Rassemblement national d'avoir une position plus modérée là-dessus, très bien, mais il y a besoin quand même de quelqu'un dans le jeu politique qui dise aux Français « je vous offre une autre solution ». Et plus on sera nombreux au premier tour à appuyer cette autre solution, plus obligatoirement le centre de gravité vis-à-vis de l'Europe va évoluer. S'il n'y a personne qui dit « on va sortir, c'est le seul moyen de s'en sortir », vous êtes sûr qu'on... Alors là, on va continuer à crever la bouche ouverte, vraiment.
Précision pour nos auditeurs, Nicolas Dupont-Aignan, donc vous faites allusion sans doute à ce sondage au Doxa, effectivement, 62% des sondés sont opposés à une sortie de l'UE et 65% à une sortie de l'euro, ce qui veut dire qu'effectivement, entre 30 et 35% ils sont donc favorables. Mais ce qui est paradoxal, c'est que 62% sont opposés à une sortie de l'UE, mais qu'en revanche, 69% ont une mauvaise opinion du fonctionnement global de l'Union européenne.
C'est
ces 30% que vous voulez aller chercher, en fait, si je devais caricaturer un petit peu.
Je pense, en fait, que dans les moments graves de l'histoire, il faut, à un moment, dire aux Français la vérité. Voilà. Je sais que je vais perdre un peu de popularité, je sais qu'il y a des gens qui diront pourquoi il fait ça, je sais tout ça. Mais la situation est tellement grave que je ne veux pas que l'alternative patriote soit un nouveau faux-semblant. Parce que là, la France s'en remettra pas. Donc je pense qu'il est très important, et il y a la place pour des voix patriotes, des nuances patriotes. Et en tout cas, moi, je veux mettre sur le tapis cette question de l'Union européenne, parce que sinon, même si on arrivait tous au pouvoir, on ne pourrait rien faire. Et on ne ferait que de regarder passer les trains. Donc, ce n'est pas possible. Et il faut qu'il y ait des millions de Français qui, à travers ma candidature, puissent dire « oui, tiens, il a raison, il faut qu'on se libère de nos chaînes ». Ça ne veut pas dire être tout seul, ça ne veut pas dire rester isolé, pas du tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de peuples en Europe qui attendent la France. Dans mon esprit, vous verrez dans mon bouquin, j'explique comment je veux faire concrètement. C'est pas « je m'en vais », c'est pas la position d'Asselineau « je m'en vais, on va fuir ». Non, la France remet en cause l'Union européenne, veut la dissoudre et propose aux autres peuples de reconstruire quelque chose. Et la France a toujours été comme ça. Et là, il y a d'autres pays qui vont suivre. On ne partira pas seul. Le système, on va le démanteler. Et puis on va reconstruire. Quand vous avez un avion qui s'écrase en permanence, qui vole mal, bah vous ne continuez pas à voler dedans. Vous en faites un nouveau. Donc il y a un moment, il faut peut-être à un moment que la France ait une pensée pour l'Europe. On doit y arriver.
Il y a quand même de plus en plus de pays européens qui basculent, enfin qui passent, en tout cas, qui choisissent des régimes plus à droite, plus souverainistes, plus conservateurs. Est-ce que le principe, c'est justement de vous croyez pas au fait de transformer l'Union européenne de l'intérieur telle qu'elle existe aujourd'hui, quoi.
Alors je vais vous dire, pendant 20 ans, je l'ai cru. Donc je peux comprendre que vous le croyez encore.
Ah moi je crois rien. En tout cas, je suis pas là pour ça.
Exactement. Mais pendant 20 ans, je l'ai cru. Et je vois aujourd'hui, en tout cas j'ai dénoté et j'explique tout cela, qu'il y a trois phénomènes qui ont changé. Il y a un premier phénomène qui a changé, c'est qu'il y a une autorité supranationale avec von der Leyen qui piétine les peuples. Et que la France dit amen. Le Mercosur, et qui va contre nos intérêts élémentaires. Tiens, hier, porte plainte contre le financement de nos centrales nucléaires. Ça suspend le lancement de nos centrales. Je ne sais pas si vous voyez dans quel état de soumission on est arrivé. Deuxièmement, il s'attaque aux libertés individuelles. Aux libertés individuelles. Le règlement DSA, tout ça, c'est la fin de notre liberté d'expression. Et troisièmement, il nous entraîne vers la guerre. Ça fait beaucoup quand même. C'est plus le... vous voyez, l'Europe, on était en désaccord, il y a trop d'Europe, il n'y en a pas assez. Là,
C'est Emmanuel Macron qui nous entraîne vers la guerre, plus que l'Europe...
Ah bah, vous plaisantez, c'est von der Leyen, tous les lobbies... Il est bien solidaire des autres, mais il y a une logique. Mmh. Ils veulent faire l'Europe de la défense. Le responsable du PPE a dit, c'est il y a quelques mois, nous ferons avec la défense ce que nous avons fait avec l'euro. Et il ciblait la France. Et c'est ce responsable du PPE que Bruno Retailleau invite en Vendée chez lui. Donc il y a un moment, il faut revenir sur Terre. Là. Ils sont en train de faire un coup d'État fédéral. Et ce coup d'État fédéral, il est en train d'être fait. Il est en ce moment, avec la complicité de Macron. Mais si on n'est pas des millions à dire « ça suffit », qu'est-ce qu'on va faire? On va subir. Et l'accoutumance à la soumission est un grand mal français.
Étienne Darjac, si vous avez une question.
Je vous écoute, monsieur Dupont-Aignan, parler, et c'est vrai que, en tant que militant national de longue date, j'ai plutôt tendance à être d'accord avec vous sur le fond, et c'est un peu le grand drame de la cause du Frexit, c'est que, vous l'avez dit, souvent les gens sont d'accord avec vous sur le fond, et ça s'arrête là. ma question, c'est, elle n'est pas impertinente, même si elle va en avoir l'air.
Vous gênez pas.
Ce message du Frexit que vous portez, vous l'avez porté en 2022, vous l'avez porté en 2017, de différentes manières. Il a été au cœur de l'actualité pendant une certaine époque, avec le Brexit, à l'époque où le FN le défendait également. Maintenant, on a presque, au-delà de l'aspect positif ou pas d'un Brexit, on a presque l'impression que c'est un peu ringard, quoi, à l'époque où, effectivement, les enjeux sont internationaux, sont la guerre en Europe, la guerre au Moyen-Orient. On a presque l'impression que ça vient même plus à l'esprit des gens. Et moi, le premier qui suis plutôt favorable sur le papier, j'y pense même plus, quoi.
Je vais vous réveiller.
Et donc, peut-être. Mais la question, c'est comment est-ce que le Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle 2027, si ça devait arriver, fait pour essayer de redynamiser, de rénover le
Vous avez
Frexit.
Raison. Et d'abord en 22,
en
et même en 17,
30, Nicolas Dupont-Aignan.
1030.
J'avais pas vu.
Non, mais c'est pas grave. En 2017 et 2022, je l'ai pas proposé. J'étais pas sur la sortie. Aujourd'hui, je pense que c'est une question de survie. Et dans mon livre, qui s'appelle « La liberté ou la mort », eh bien, je vous explique comment on peut sortir sans pour autant tourner le dos à nos voisins. Comment on va libérer l'Europe ? Voilà, on va libérer l'Europe, on va libérer la France, mais quand la France est libre, elle va libérer les autres peuples. Alors, ça va vous paraître très audacieux, Mais vous savez, il y a des moments dans l'histoire où il faut briser toutes les chaînes. Moi, je suis libre. Justement, j'ai la chance d'être totalement libre. Et je peux dire ce que je veux. Et je veux dire aux Français ce que je crois fondamental pour résoudre nos problèmes d'immigration, de sécurité, d'emploi, etc. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une élection présidentielle de faux-semblants. Donc, je pense que je peux apporter modestement ma pierre. Après, c'est la vie.
question de nos auditeurs, beaucoup plus pragmatique, hein, qui se recoupe un petit peu. Il a évoqué l'idée d'une primaire allant de Sarah Knafo à Édouard Philippe. Est-ce que potentiellement vous y êtes favorable?
Jamais,
et vous pourriez
mais comment on peut faire une primaire avec des gens qui ont détruit la France? Mais on est dans plein délire. En fait, la primaire de Édouard Philippe au Knafo, c'est pour recycler des gens qui ont détruit le pays. Qui ont été le premier ministre d'un homme qui a liquidé la France. Mais il faut revenir sur terre, les amis. Alors que le Bloc central fasse sa primaire, ils font leur primaire, ils sont trois sur le radeau de la Méduse. Eh bien, ils vont essayer de trouver un capitaine au radeau de la Méduse. Mais nous n'allons pas dans cette espèce de machin. Ça n'a aucun sens. Aucun sens.
Merci Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, maire de Hyères dans l'Essonne. Merci Étienne Darjac et Thomas Morel d'avoir été avec moi.
Merci
à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain dans le prochain épisode de Restons Courtois. Et vous retrouvez demain le Restons Courtois de Boulevard Voltaire, présenté par Marc Baudrier. À bientôt.
Ça suffit maintenant.